sortie par le gouvernement congolais pour rendre visible l'assistance accordée à toutes les personnes en détresse. Donc nous entrons dans la deuxième phase de cette conférence de presse qui est la séance des questions et réponses. Veuillez éteindre vos téléphones portables ou mettez-les sous silencieux. Je rappelle qu'à Goma, nous avons le général Jean Bayou, commandant en second de la force de la MONUSCO, qui répondra à toutes les préoccupations d'ordre sécuritaire, et que dans la salle, nous avons aussi d'autres collègues de l'équipe pays qui pourront éventuellement prendre des questions spécifiques. Donc, nous restons ici à Kinshasa, et sans tarder, nous prenons trois questions. Une à droite, une à gauche et deux à droite, de préférence une femme pour ouvrir les débats. On a aujourd'hui un invité spécial qui est ouvert à toutes vos préoccupations. Oui, passez le micro, oui. Ah, c'est un homme. Bon, allons-y.
Roger Marley Lukunga, journal Écho de la MP. Pour réduire le désert d'incompréhension qui pourrait s'étendre dans les sphères de mon intelligence, je m'accroche à poser la question suivante. Quelle différence existe-t-il dans leurs objectifs entre les éléments armés de la force de la MONUSCO qui accompagnent les FARDC dans les différentes opérations à l'Est et les éléments armés de la brigade d'intervention? Je pose cette question parce que j'ai constaté qu'il y a enjambement dans les actions. Après avoir lu le verbatim de la semaine dernière, où les éléments des forces de la brigade d'intervention sont en train de sécuriser les populations de la même manière que le font les éléments de la MONUSCO.
Oui, merci.
C'est la première question.
Une question, s'il vous plaît, et donnez la chance à d'autres aussi de poser cette question. Donc, mon général... la préoccupation de Monsieur Marley, je pense que vous l'avez bien comprise. Donc, vous avez quelque chose à dire là-dessus?
Absolument. Bonjour à nos auditeurs et merci pour la question. Le Conseil de sécurité, en 2013, a voté une résolution qui a créé effectivement cette brigade d'intervention. Je pense qu'il faut clairement affirmer que cette brigade d'intervention fait totalement partie de la force de la MONUSCO. La force de la MONUSCO, qui intègre, qui comprend aussi la brigade d'intervention, ne fait qu'une. C'est un point très important à déterminer. La différence qu'il peut y avoir avec la MONUSCO et la force de la MONUSCO telle qu'elle existait auparavant, c'est que l'arrivée de cette brigade a porté un caractère plus offensif, c'est-à-dire que vis-à-vis de l'action à mener contre les groupes armés, dans son volet de neutralisation, cette brigade a un volet plus offensif. Mais toutes les forces militaires de la MONUSCO, y compris la brigade d'intervention, répondent à l'autorité du commandant de la force, dont je suis l'adjoint, et opèrent sous un même mandat.
Merci, mon général. Donc, une deuxième question à Kinshasa, sur la droite, s'il vous plaît. Passez le micro. Oui.
Oui, Pauline Mouzali pour la BBC.
Parlez plus fort, s'il vous plaît.
Pauli Mouzalia pour la BBC.
Oui.
Ma question s'adresse à vous, Monsieur Basse. J'aimerais savoir où en est le processus de rapatriement des ex-combattants du groupe M23 et savoir éventuellement dans quelle mesure la MONUSCO est impliquée dans ce processus.
Merci. Vous savez, compte tenu de l'accord cadre qui avait clairement défini les conditions et les responsabilités de toutes les parties à ce conflit qui a pris fin avec la défaite du M23. Donc la déclaration de Nairobi fait obligation à certaines parties de remplir leurs responsabilités. Et depuis fort longtemps, le gouvernement congolais a initié des contacts avec les autorités tant ougandaises que rwandaises pour faciliter le rapatriement de ces ex-combattants du M23. Encore tout récemment, nous avons vu que le gouvernement congolais, des autorités congolaises, étaient en pourparlers très avancés avec les autorités ougandaises pour faciliter ce rapatriement. Alors, le rôle de la MONUSCO, bien sûr, dans toute cette opération, consistera évidemment à apporter un appui logistique conséquent pour faciliter le rapatriement éventuel de ces combattants du M23. Et je pense que l'espoir est permis parce que la dynamique est enclenchée et toutes les parties à ce processus se parlent, se concertent et des plans sont en train d'être définis pour pouvoir pouvoir rendre possible ce rapatriement qui est, comme je l'ai dit, contenu dans les accords conclus à Addis Abeba. Nous prenons une troisième question ici à Kinshasa sur la droite.
Oui, merci Albert Omba, American TV. Monsieur Diallo, nous célébrons aujourd'hui la Journée internationale humanitaire. Et par rapport à l'année passée, est-ce qu'il y a une augmentation de l'aide humanitaire pour cette année et l'aide de l'ordre de combien pour nos téléspectateurs et nos auditeurs?
Monsieur Diallo.
D'après les informations que mes équipes du Bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations Unies m'ont préparées, le financement, l'enveloppe globale de financement des activités de réponse humanitaire à la République démocratique du Congo pour l'année fiscale 2015 s'élève à 300 millions de dollars, ce qui est une augmentation de près de 44% par rapport à l'enveloppe de 2014. Est-ce que je suis capable de vous donner les détails de ça ? Probablement pas à ce moment-là, mais s'il y a besoin d'informations complémentaires sur ces détails, je pense que le Bureau de la coordination humanitaire ou le porte-parole pourra revenir vers vous avec de plus amples détails.
Merci M. Diallo. Et sans tarder, nous rejoindrons nos amis de Goma pour trois questions à Goma. Goma, la parole est à vous.
Merci à gauche, une dame.
Oui, merci beaucoup pour la parole. C'est Hortense Tabakou. Des Digital Congo, je m'adresse au docteur Mamadou Diallo. Tout à l'heure, là, vous parlez de la Journée internationale de l'aide humanitaire et on parle de l'exposition qui aura lieu à Goma. Est-ce que vous pensez que par rapport à tout ce qu'il faut comme aide, par exemple au Nord Kivu, l'exposition aura quel impact, l'exposition des photos, par exemple?
Madame Tabakou, l'exposition fait partie simplement de la caravane de sensibilisation et de mobilisation qui est organisée autour et pendant la journée mondiale de la réponse humanitaire. Cela n'est pas nécessairement un élément spécifique de la réponse ou de l'appui à donner aux populations et aux personnes en besoin dans le Nord Kivu, mais ça procède aussi de notre intention et de notre ambition sincère de pouvoir partager l'information avec l'ensemble des acteurs pour qu'ils sachent ce qui est en train d'être fait, ce qui se fait au quotidien pour les communautés au Nord Kivu, au Sud Kivu. Et il a été dit ici par Mme Marshall que le même type d'exposition aura lieu dans d'autres villes telles que Lubumbashi et ailleurs. Cela procède du désir qui est le nôtre de pouvoir continuer le dialogue, de communiquer et de partager l'information. J'en appelle à vous, à vos collègues qui est à Goma, afin de pouvoir nous tendre la main pour pouvoir continuer cette activité de sensibilisation en direction des communautés, des élus et de l'ensemble des acteurs humanitaires qui, je le rappelle, les familles congolaises demeurent encore le premier acteur humanitaire en République démocratique du Congo.
Merci M. Diallo. Une deuxième question à Goma.
Merci beaucoup M. Albert Toulinabo du journal Le Peuple Souverain. Ma question s'adresse à M. Félix Vasse, porte-parole de la MONUSCO. Selon une radio de la place et conformément aux résolutions et recommandations sur la pacification et la cohabitation pacifique prises par les leaders de la communauté dans un dialogue social tenu à Walikale dernièrement, les chefs rebelles Thabo Tabéry Tcheka est prêt à quitter la brousse, donc à se rendre, mais à condition qu'il soit amnistié. Son amnistie serait-il possible au cas où il s'est rendu?
Oui, merci pour cette question qui est d'ordre peut-être militaire, mais je voudrais tout simplement préciser ici que les déclarations de Tcheka n'engagent que Tcheka. Tcheka est à la tête d'un groupe criminel qui, comme vous le savez, depuis deux ou trois mois, sont en train de mener des activités négatives qui impactent de manière très négative sur la vie des populations civiles. Notamment, des tueries sont perpétrées, des villages sont incendiés. Et Tcheka se bat de manière récurrente avec son adjoint Guidon dans ce territoire de Walikale, particulièrement dans la région de Ntoto. Mais je sais que le général Bayo, qui est avec vous à Goma et qui a effectué plusieurs missions dans cette région pour mettre en œuvre les mécanismes nécessaires à la protection des populations civiles, a des informations beaucoup plus actuelles à partager avec nous. Mon général, la parole est à vous.
Merci, je crois que votre question était très précise. S'agissant de l'amnistie, ce n'est pas à la MONUSCO de répondre à ça, c'est aux autorités du pays, le cas échéant, puisque nous n'avons pas d'autorité, on va dire, en la matière. Pour compléter ce qu'a dit le porte-parole Félix Basse, je veux simplement vous assurer que la MONUSCO, maintenant depuis le 7 août, est présent à El Toto avec une capacité militaire relativement importante, qui a permis en particulier aux populations de El Toto et de la région de pouvoir, pour partie, retourner dans leurs habitations. Cela dit, effectivement, la situation sécuritaire n'est pas rétablie. Elle ne sera pas rétablie uniquement par la présence de militaires, qui pour l'instant, nous sommes des facilitateurs, on va dire, d'un processus qui doit être d'abord politique. Et nous soutenons actuellement le processus qui est en cours au niveau du territoire de Wali-Calais, de manière à ce qu'il, si possible, qu'il porte ses fruits. S'agissant des groupes armés de Tchéka en particulier, nous constatons sa responsabilité dans un certain nombre de déplacements, de crimes, et nous avons un mandat, comme vous le savez, pour protéger les civils et le cas échéant pour arrêter et neutraliser ces chefs qui sont responsables effectivement de ces crimes. La porte est toujours ouverte, en particulier pour les combattants eux-mêmes, de se rendre, et je peux témoigner à nouveau que à El Toto même, mais aussi dans la région jusqu'à Cachébéré, un certain nombre de combattants, de divers groupes d'ailleurs, pas uniquement du groupe de Tchéka, se sont rendus et nous continuons en fait à encourager ce mouvement.
Merci, nous restons à Goma pour une troisième question.
Merci pour la parole. C'est un journée de paix pour les comptes. C'est un journée de paix pour les comptes de géopolitique. La question qui abonde dans le même ordre d'idée que celle de ma consoeur et qui s'adresse à Florence Marshall veut savoir les thèmes autour duquel sera accroché l'exposition à laquelle on a fait allusion.
Oui, Florence, vous avez compris la question?
Oui, j'ai compris la question. L'exposition, comme l'a relayé ensuite Monsieur Diallo, est une activité parmi tant d'autres de sensibilisation pour montrer ce que toute la communauté humanitaire, à la fois les Nations Unies, les ONG, le gouvernement, ce que tout le monde fait ici pour venir en soutien à ceux qui en ont le besoin. Voilà, donc c'est vraiment une exposition avec des photos qui montrent les activités sur le terrain en cette journée que nous célébrons aujourd'hui.
Très bien, retour à Kinshasa pour prendre deux questions, une à droite, on commence par la droite et une à gauche, oui. Oui, donnez le micro au fond là-bas.
Merci pour la parole, c'est Saint-Forien Katumba. J'ai une préoccupation à Madame Florence. En République démocratique du Congo, la classe moyenne existerait de nous seulement. Que faire? Que compte faire avec la plus pour qu'elle accède aux services de santé de base au profit de la population congolaise? Je vous remercie.
Oui, Florence.
Je vous remercie. Je vous rappelle que j'interviens au nom de toutes les agences et que votre question est transversale concernant l'accès aux services de santé. Elle concerne de nombreuses entités des Nations Unies ici en RDC. Et effectivement, la préoccupation d'un meilleur accès aux services de base est reprise dans le plan de développement, le plan cadre de développement qui existe entre la RDC et les Nations Unies, le fameux UNDAF dont je vous ai déjà parlé ici, qui est en fait le cadre pour toutes nos interventions sur la période 2013-2017. Et plusieurs acteurs interviennent dans ce domaine. On a l'UNICEF, on a le UNFPA, avec des actions, une fois encore, qui permettent à tout le monde d'avoir accès à des soins et à des services de base minimum.
Merci pour cet éclairage, Florence. Donc, nous passons par la gauche. Le micro à gauche, s'il vous plaît. Donnez le micro, oui.
Merci, Thierry Maille de l'Agence congolaise de presse. Monsieur Diallo, vous êtes responsable du PNUD et de l'action humanitaire ici en RDC. Mais nous avons l'impression que vous intervenez toujours en aval au lieu d'intervenir en amont. C'est-à-dire que vous avez parlé des acteurs humanitaires, qui sont les familles. Est-ce que vous allez faire quelque chose pour contribuer aux revenus justement de toutes ces familles qui sont mal nourries et mal payées? Comment vous allez le faire en tant que représentant du PNUD et en tant que représentant des actions humanitaires en RDC?
Merci. Monsieur Diallo.
Merci. Il est peut-être utile de rappeler ici que dans le cadre de mes multiples fonctions, effectivement, j'assure la représentation résidente du programme des Nations Unies pour le développement. Mais nous avons, dans le cadre de ce que vous avez bien appelé les activités en amont, un programme de coopération entre le PNUD et entre l'ensemble des agences du système des Nations Unies dans le volet de développement, qui ne sont pas des activités en aval, donc ce sont des activités de développement en soutien à l'agenda de l'émergence et de la révolution de la modernité du gouvernement de la République démocratique du Congo. Ces activités couvrent l'ensemble de toute la palette des besoins des familles et des communautés. Cela toucherait aussi la question de votre confrère qui parlait un peu de l'accès aux services de santé, mais également l'emploi des jeunes, la création de revenus pour les communautés, la discussion sur l'aménagement du territoire et l'amélioration du cadre réglementaire de l'accès au foncier rural, l'amélioration de la production agricole à travers les intrants, les nouvelles semences, les routes de desserte agricole, la création et l'animation des marchés de produits agricoles, jusqu'au cadre macroéconomique qui constitue à discuter avec le gouvernement sur l'espace fiscal, sur la création d'un marché national de capitaux. Toutes ces activités dont la somme arithmétique permet à la République démocratique du Congo de valoriser l'énorme potentiel économique que ce pays a, mais qui reste encore en jachère dans la plupart des domaines. Est-ce que toutes ces actions vont revenir au niveau de la famille congolaise? C'est notre ambition. C'est que le développement ne soit pas seulement une question de statistiques, mais que cela touche à la vie au quotidien de la Congolaise et du Congolais, pour qu'ils voient dans le développement, dans les actions humanitaires, une amélioration de leur quotidien et la capacité qu'ils ont de pouvoir offrir un avenir meilleur à leurs enfants. Comme on dit souvent, nul n'a le monopole de l'espoir. L'espoir commence au niveau de la cellule familiale. Pouvoir mettre son enfant à l'école, pouvoir lui assurer la vaccination, lui montrer que si tu vas à l'école, tu étudies, tu peux sortir et trouver du travail. C'est tout ça qui constitue la chaîne de l'espoir. Et les Congolais et les Congolais y ont droit. Donc le travail de développement, comme vous l'avez dit, c'est celui-là. C'est de ramener ça aux besoins, aux préoccupations, aux ambitions de la Congolaise et du Congolais moyen et de la famille congolaise, quel que soit le lieu où elle vit dans le territoire de la République démocratique du Congo.
Merci, M. Diallo. Je rappelle que nous sommes à 5 minutes de la fin de cette conférence de presse. Donc, direction Goma pour prendre deux questions. J'encourage les gens de Goma à inciter les femmes à prendre la parole. Parce qu'elles se font dominer par les hommes pour le moment. Goma, à vous la parole, s'il vous plaît.
Merci pour la parole. Moi, c'est Samuel Arcadius Moutonzi de Rao FM. Ma question s'adresse à Monsieur Mamadou Diallo.
Docteur
Mamadou Diallo. On a entendu sur les ondes de la radio onisienne cette semaine que il y aurait des propositions sur les glissements de mandat présidentiel à la République démocratique du Congo. Sur ce, je voudrais savoir
un peu de silence, s'il vous plaît.
Je voudrais savoir la position de la MONUSCO. La MONUSCO est pour la tenue des élections au temps indiqué ou pour les glissements?
Mais, un peu de silence, oui.
Cher ami, étant en République démocratique du Congo, il y a moins de deux semaines, vous devriez peut-être commencer par m'expliquer qu'est-ce que c'est que le glissement.
Ouais,
mais peut-être mon propos sera peut-être beaucoup plus simple concernant un peu le processus et le calendrier électoral. Ce qu'il faudrait dire, c'est que nous appelons tous de nos voeux l'avènement en République démocratique du Congo d'institutions gouvernementales fortes, crédible, compétente, redevable, capable d'accompagner le développement de ce pays et la sécurisation du Congo. Les élections ne sont qu'une partie de ce processus qui permettra aux Congolaises et aux Congolais de participer à un processus qui leur permettra d'avoir une voix et un impact sur le choix des hommes et des femmes qui vont animer ces institutions. C'est un processus national et c'est un processus qui est guidé et encadré par des structures nationales qu'est la CENI, je cherche la définition en français.
La Commission électorale.
Commission électorale nationale indépendante, qui est une institution congolaise qui a déjà en la matière une expérience bien avérée et qui va recevoir, dans le cadre du mandat donné à la mission des Nations Unies par le Conseil de sécurité des Nations Unies, le soutien en temps opportun du système des Nations Unies pour accompagner le processus avec comme ambition sincère de permettre à chaque Congolaise et à chaque Congolais qui souhaite aller exprimer son devoir citoyen de voter, de pouvoir le faire dans des conditions de sécurité, des conditions de transparence et des conditions d'inclusion qui vont permettre d'avoir des résultats qui reflètent la volonté des Congolaises et des Congolais. Tout le reste semble être de l'apanage des Congolaises et des Congolais dans le cadre du dialogue national qu'ils sont en train de mettre en place, auquel il appartiendra de répondre à ce type de questions comme celles que vous vous posez. Et une fois que les décisions sont prises, les partenaires du Congo, au rang desquels les Nations Unies, viendront en appui aux institutions congolaises chargées des élections afin que cela se passe dans des conditions de transparence, de crédibilité et de sécurité qui permettent d'avoir des résultats crédibles.
Merci. Nous restons à Goma pour une deuxième question.
Oui. Je me nomme Roberto, c'est une question militaire qui va être répondue par le major González.
Les questions sont prises par le général.
Ok. Ma question est celle-ci. Mon général, à chaque fois, on posait des questions au major concernant l'entrée des militaires rwandais sur le sol congolais et qui ont attaqué les positions des FDLR au niveau des Massissi et Rutshuru. Nous n'avons pas eu une réponse exacte. Est-ce que vous avez des informations sur l'entrée encore des militaires rwandais au sol congolais? Merci beaucoup.
Il faut apporter une réponse rapide vu le temps imparti. Nous n'avons pas, au niveau de la MONUSCO et au niveau de la force de la MONUSCO, la confirmation de telles informations. Voilà, ça c'est la réponse brève. Sachez en plus que toutes les questions liées à la présence éventuelle d'éléments, on va dire, potentiellement déstabilisateurs venant des pays voisins en général, est un des soucis très importants, on va dire, de la communauté internationale et, complétée dans notre mandat, de la MONUSCO. C'est-à-dire que si nous avions tout fait pour corroborer effectivement ce genre d'informations, nous y apporterions la plus grande attention et ce serait fait bien évidemment avec les autorités de votre pays.
Merci mon général. Il est presque l'heure pour rendre l'antenne à Radio Okapi, mais je prendrai la liberté de poursuivre cette conférence de presse pour encore 5 minutes parce que nous avons un invité spécial et je vous donne l'occasion aujourd'hui d'interagir avec Monsieur Diallo. Donc merci à Radio Okapi. Donc nous revenons ici à Kinshasa pour prendre deux questions avant de repartir à Goma. Oui, sur la droite, donnez le micro.
Oui, merci pour la parole. C'est M. Théodore Ngandou, Radio Télé 7. J'adresse ma question à M. Mamadou Diallo. Vous occupez plusieurs fonctions à la fois. D'abord, je vous félicite. Mais vous occupez plusieurs fonctions à la fois. Vous êtes représentant du secrétaire général adjoint des Nations Unies. Vous êtes représentant résident du PNUD. Vous êtes coordonnateur des actions humanitaires RDC. Pourquoi plusieurs fonctions attribuées à une seule personne? Est-ce aux Nations Unies il y a déficit ou carence du personnel ou de personnes qui peuvent occuper ces différentes fonctions? Ne serait pas une manière de vous charger un peu et vous manquerez peut-être quoi faire en occupant, parce que le PNUD a un champ vaste d'activités et actions humanitaires aussi la même chose. Alors en même temps vous êtes représentant adjoint du secrétaire général des Nations Unies, comment allez-vous concilier toutes ces fonctions-là dans un contexte comme celui de la RDC?
Merci M. Ngandou et merci de vous soucier de mon bien-être moral et physique en posant cette question sur les multiples chapeaux qui sont les miens. Mais peut-être pour vous donner un aperçu, ceci n'est que l'expression de l'ambition du système des Nations Unies de donner de la cohérence à l'action de la famille onusienne au Congo. Il n'y a pas de dichotomie au Congo entre la mission des Nations Unies pour la stabilisation, connu sous son acronyme de MONUSCO, et la famille onusienne chargée de l'action de développement et de l'action humanitaire. C'est la même famille, c'est comme plusieurs unités d'une même armée positionnées dans des endroits différents de la même ligne de front. Pourquoi ce besoin de cohérence? C'est simplement parce que l'action de la MONUSCO dans la lutte contre les forces négatives en accompagnement des forces armées de la République démocratique du Congo, la lutte contre les forces négatives et les forces armées, c'est pour créer les conditions de la relance économique et du développement. Une fois que ces conditions sont créées, étant moi-même un des leaders de la mission, je suis en mesure maintenant d'utiliser mes autres fonctions en tant que représentant résident du plus des coordonnateurs des Nations Unies pour amener la famille de développement des Nations Unies pour apporter aux Congolaises et aux Congolais dans ces zones qui auront été libérées de l'emprise des groupes armés les bienfaits de l'activité de développement en accompagnement des programmes et des projets du gouvernement. Plus loin, dans le domaine humanitaire également, dans le cadre des actions de lutte contre ces groupes armés, une fois que la sécurité est ramenée, les familles qui ont souffert de déplacements ou qui ont souffert des exactions de ces groupes et qui ont besoin d'assistance humanitaire, je peux également, dans le cadre de mes autres fonctions, appeler la communauté humanitaire, comme je le fais aujourd'hui, comme je viens de le faire pour le Katanga, dans le cadre de l'épidémie de rougeole, ou je viens de le faire pour les territoires de Nyunzu, Kalemie et Manono, dans la nouvelle province du Tanganyika, apporter les ressources que nous avons et la flexibilité d'action afin de pouvoir répondre à ces questions. C'est vrai, et je vous le concède, ça me donne beaucoup de travail, mais j'en suis fier, Monsieur Ngandou. Et je pense que je vous demande vous-même de m'accompagner par vos conseils et vos prières afin que je puisse réaliser ce travail. Ce sont des fonctions stratégiques et délicates que le secrétaire général m'a confiées, mais je pense avoir les épaules assez larges pour pouvoir les tenir.
Merci pour ces éclairages, Monsieur Diallo. Donc, nous prenons une deuxième question ici à Kinshasa. Ah oui, donnez le micro ici. Enfin, une dame. Un peu plus fort, s'il vous plaît.
Monsieur Diallo, juste une petite question. Laetitia Massela pour le compte de la RTNC2. C'est la journée internationale de l'aide humanitaire en RDC. Qu'est-ce que vous avez précisément prévu pour Kinshasa? Merci.
Pour Kinshasa, peut-être un plan très simple, Madame Massela. Vous rencontrez et vous serrez la main. Ça me semble un bon début pour pouvoir commencer donc cette relation que j'ai appelée avec le monde de la communication et des médias, cette relation féconde, fructueuse, mutuellement bénéfique, mais également critique, quand il s'agit vraiment de donner des critiques constructives. C'est ça que j'attends de vous, le monde de la communication. Je serai toujours disponible pour répondre à vos préoccupations, de partager l'information et de mettre sur la table tous les défis et toutes les opportunités que nous avons. Pour Kinshasa, en cette journée, nos pensées vont aux dizaines et aux centaines de milliers d'enfants et de familles qui sont en train de regarder la prochaine étape de l'ouverture des classes, avec beaucoup d'appréhension en se disant comment est-ce qu'on va s'organiser pour les uniformes, pour les souliers, pour le Minerval, pour ça et ça. À toutes ces familles et à tous ces enfants, nous disons que le monde du développement et le monde des Nations Unies, nous sommes là pour accompagner les familles, les communautés, le gouvernement. Il a été dit ici tout de suite que l'UNICEF vient déjà. L'UNICEF, qui est une de nos agences à la fois humanitaire et développement, a mis en place un programme pour appuyer 1 400 000 enfants avec le soutien pour les fournitures scolaires. Je suppose que si on doit commencer quelque part, pourquoi aller chercher loin alors que les besoins sont ici à Kinshasa? Un enfant qui vit ici à Kingasani, à Kintambo, à Limete, à Lemba ou ailleurs, a le même droit, a les mêmes besoins que celui qui vivrait peut-être là-bas à Kananga, ou qui serait un peu dans la nouvelle province de l'Ituri. Ce sont tous des enfants congolais. Donc si on peut commencer ici à Kinshasa pour appuyer les enfants et les familles, je pense que c'est quelque chose de bien et nous avons l'ambition de le faire.
Merci. Direction Goma. Goma, pour prendre une question, s'il vous plaît. Nous sommes presque au terme de cette conférence de presse. Goma, oui.
J'aimerais savoir pourquoi, malgré la multitude des aides à l'RDC, cela ne change rien pour les bénéficiaires.
On vous entend très mal. Voulez-vous reprendre votre question, s'il vous plaît, et parler plus fort?
Oui, je demande que pourquoi, malgré plusieurs interventions d'aide à l'RDC, cela ne change rien sur le terrain. La plupart des bénéficiaires ne voient pas l'impact de cette aide-là.
Euh, Oui, Billy. Oui, vous pouvez nous aider à mieux comprendre sa question, Bill Amekasu.
Oui, malgré cette aide, il n'y a aucun impact pour les populations. C'est bien. Résumé.
Merci, ça dépend certainement, tout est une question d'échelle de valeur. Cela dépend du paramètre que vous utilisez pour mesurer l'impact. Mais si vous le ramenez vraiment à l'enfant congolais, à la femme congolaise, à l'homme congolais, aux jeunes congolais, qui sont en fait les cibles de toutes ces interventions, la possibilité de pouvoir, quand on est un enfant, penser qu'on va aller vers le début de l'année scolaire, déjà avec la possibilité que, quel que soit le niveau de revenu de vos parents, vous aurez, comme tous vos amis, tous vos copains, la possibilité d'avoir vos équipements, vos livres, vos cahiers, et tout ce qui vous permet d'arriver à l'heure, au jour de l'ouverture, pour pouvoir commencer les cours comme tous vos autres amis, ça me semble être quand même un motif d'espoir. Est-ce qu'on le fait pour l'ensemble de tous les millions, les dizaines de millions d'enfants congolais? Probablement pas. Mais le changement commence par une personne. Le progrès, c'est d'abord une personne. Donc changer le regard, changer l'espoir dans le regard d'un enfant, changer l'espoir dans le regard d'une mère et d'un père qui sont fiers d'accompagner leur enfant le jour de l'ouverture en disant que lui aussi, il a tout ce qu'il faut pour faire l'école, ça c'est déjà un signe de progrès. Évidemment, ça n'enlève pas les besoins, ils sont toujours là. Mais notre travail, c'est un travail qui ne s'arrête jamais. La ligne d'arrivée, c'est l'espoir. Et cette ligne d'arrivée, elle n'est pas fixée quelque part comme dans les Jeux Olympiques ou dans une compétition de football. C'est une aspiration. Tant qu'on a le souci de d'aider les ceux et celles qui sont dans le besoin, d'accompagner le gouvernement du Congo et les communautés congolaises dans l'effort de développement, je pense qu'il y a du travail à faire. Et c'est peut-être notre œuvre commune à tous. Personne individuellement pris, aucune agence n'a les moyens, n'a la portée et n'a la force de pouvoir répondre à tous les besoins. Mais tous ensemble, dans un élan de solidarité, nous pouvons apporter le changement pour la vie d'un Congolais d'abord, d'une Congolaise ensuite, d'une famille, d'une communauté, d'une province et d'une nation.
Merci. Par souci d'équité, nous prenons une deuxième question à Goma avant de mettre un terme à cette rencontre. Goma, oui.
Oui, je suis Dijin Diariwa de Channel TV. Ma question s'adresse au général Baro. La MONUSCO très souvent prône la protection des populations civiles. Mais comment expliquer qu'il y ait des villages ou des maisons incendiées et le déplacement de la population dans le village de Toto, Bikunse et Brazan, pendant qu'il y a une base de la MONUSCO en Toto?
Merci, je pense que c'est une excellente question. Je pense qu'il faut d'abord affirmer que la protection des civils va au-delà d'une présence militaire. Ça, c'est quand même très important. Et je dis ça sans du tout nous soustraire à nos responsabilités. Nous sommes intervenus dans la région de Ntoto, où cela fait des mois, effectivement, des mois, pas uniquement des semaines, que des populations souffrent de la présence et des rivalités entre des groupes armés. Donc là, il y a un problème effectivement quasi immédiat de besoin de sécurité. Nous avions les capacités, nous avions les hélicoptères, nous avons déployé les troupes. Mais il est évident que notre présence, qui pour l'instant a un peu calmé les choses localement, ne suffira pas. Et c'est pourquoi j'ai insisté tout à l'heure pour dire que la raison première de notre présence, c'est l'appui effectivement à un processus plus large. Puisqu'il faut bien comprendre quelles sont les raisons de ces rivalités, quels sont les enjeux, on va dire, des chefs de ces groupes et de ceux qui les animent, et aussi de mesurer les conséquences, on va dire, de leurs actions vis-à-vis des populations. Alors, nous profitons effectivement de cette plateforme pour dire effectivement qu'il faut réfléchir à la dimension plus large, effectivement, que la question sécuritaire ou militaire, on va dire, de l'existence des groupes armés dans la région. Vous savez parfaitement, je pense que c'est des choses que vous connaissez très bien. La MONUSCO souhaite, avec les autorités de notre pays, les autorités sécuritaires, effectivement, répondre, dans le cadre de notre mandat, aux besoins sécuritaires des populations. Mais il est très important que notre action se fasse en appui d'un processus plus large, politique, qui inclut aussi, comme l'a dit le représentant spécial Diallo, la dimension de développement, la dimension économique, la dimension sociale, qui sont les seules garanties, effectivement, de résultats non pas temporaires, mais dans la durée.
Merci, mon général. C'est sur cet appel lancé pour l'implication de tous les acteurs militaires, religieux et sociaux que nous mettons un terme à cette conférence de presse, tout en vous rappelant que la sécurité, c'est l'affaire de tous. Merci et à mercredi prochain.
Merci. Merci beaucoup. C'est magnifique.